Every day. Anywhere. Anytime. A digital Gasbourg Journal. Ebenezer International. Your station.
La RCEI vous propose d'écouter.
Ils sont pris dans un engrenage. Et là encore, aujourd'hui, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent pas pour vivre, ils travaillent pour survivre.
Pour survivre.
Donc il n'y a pas de place à la créativité, il n'y a pas de place. On travaille pour évacuer l'angoisse. Enfin, le travail que l'on fait permet juste de limiter l'angoisse de la fin du mois, quoi.
Comment je vais nourrir mes petits et... en détail. C'est quand même pas très travail en détail. Une nouvelle rubrique socio-culturelle sur votre station, la RCEI.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Que vous soyez cadre ou non cadre, employé ou personne au chômage, vous êtes tous concernés par la question du travail. Du matin au soir, même si vous ne mentionnez pas ce mot, il est pourtant bien présent dans votre esprit. Néanmoins, en dépit de la place qu'il occupe dans notre quotidien, ils sont nombreux, voire très nombreux, ceux qui n'arrivent pas à en profiter dignement. Le problème vient tantôt de l'ignorance ou du mépris de leurs devoirs, tantôt de l'ignorance totale ou partielle des droits qui sont les leurs. Et si vous étiez l'un des auteurs de votre propre bien-être et de votre épanouissement personnel dans votre travail? Seriez-vous prêt à l'accepter comme tel? À cette question majeure et à tant d'autres, notre invité spécial à ce premier numéro de travail en détail, M. Esno Philippe, coach et conseiller, va nous proposer quelques éléments de réponse. C'est votre ami podcasteur Franck Douristil qui vous parle depuis la France métropolitaine dans le Val d'Oise. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute et comme il est de notre habitude, de très belles sélections musicales vous seront proposées tout le long de cette émission. Hello, you are listening to the Digital Gospel Channel, the radio Ebenezer International. My name is Frank Doristil, your friend podcaster, and it's really a great joy to come today with a new hidden on our radio program. Travail en détail. Our first guest is Mr. Esno Philippe, a coach living in Paris. Even though the program will be in French, I'm persuaded that it will be a good occasion for all of you who want to improve their knowledge in this beautiful language, la langue de Molière, la langue française. And don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. www.radioeben-ezerinternational.com. Stay in there and pitch. Buongiorno e benvenuti a voi tutti cari amici ascoltatori italiani. Sono Franck Douristil, il vostro amico pastore per la Radio Cristiana Ebenezer International dalla Francia. Mi fa molto piacere di poter presentarvi un nuovo programma sulla Radio Cristiana Ebenezer International che si chiama Travail en détail. Il nostro invitato si chiama il signore Esno Philippe e con questa trasmissione sia in francese penso che sia interessante soprattutto per quelli cui piacerebbe scoprire un poco più il mondo e la lingua francophone. Je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous suivez la première édition de Travail en détail, sur la RCEI. Et juste avant de vous faire écouter notre entretien avec Monsieur Esno Philippe, l'invité spécial, nous allons écouter celui qui est l'artiste de la semaine sur cette radio, l'artiste italien Renato Gambulli, qui sera notre invité à la première édition de Art et Culture. Écoutons-le dans ce chant intitulé « Un vero amico ». Je vous souhaite une agréable audition. Vous écoutez « Travail en détail ».
È tanto tempo che non ci vediamo più, ma resti sempre nei pensieri miei. Li chiamano ricordi, però non hanno età, essere amici è per l'eternità. Un vero amico quando ti sorride, non hai più dubbi, sai che c'è. Tradisce mai e non importa se non te lo dico, io lo so bene che anche tu lo sai, sarò per sempre tuo sincero amico, qualunque sia la vita che vivrai. Tanto tempo che non ci sentiamo più, ma il tempo non cancella niente mai. È bello che tra noi c'è una strana magia, anche se ognuno ha preso un'altra via. Amico, noi ci rivedremo ancora, come allora, la lontananza è solo un'apparenza, perché non c'è distanza tra di noi. Un vero amico può anche non parlare, ma dice sempre dai che c'è. Sia la vita che vivrai. Sarò per sempre tuo sincero amico, qualunque sia la vita che vivrai.
Travail en détail.
Monsieur Esno Philippe, je vous salue très cordialement et vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour intervenir dans la première édition de ce programme Travail en détail. Soyez le bienvenu sur nos ondes.
Bonjour monsieur, je suis ravi de vous recevoir et je vais faire en sorte que d'éclairer vos auditeurs et vos questions, notamment sur ce qui m'amène à faire ce métier qui est celui de coach. Et donc, j'espère répondre le mieux possible à toutes vos questions.
Nous sommes situés actuellement en plein cœur de Paris. Ça fait longtemps que vous vivez dans ce coin. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ce qu'il y a de particulier dans cet endroit où vous habitez actuellement?
J'habite près d'un parc qui s'appelle le parc des Buttes-Chaumont. Et c'est un petit îlot de verdure qui est fort appréciable dans des journées comme celle que nous connaissons aujourd'hui avec le soleil. Voilà, voilà une ce qui est intéressant dans le quartier.
Merci bien. Nous aurons abordé d'ici quelques instants la question du travail sous différentes facettes. Mais tout d'abord, pourriez-vous nous vous présenter à nos auditeurs qui sont branchés sur tous les continents? Qui est Monsieur Eno Philippe?
Monsieur Eno Philippe est un homme de 52 ans. J'ai 52 ans, je suis né au mois d'avril. Je vais vous parler de ma partie professionnelle. Je suis consultant et coach en ressources humaines. J'accompagne dans leur développement personnel et professionnel des personnes qui souhaitent évoluer. Alors, soit à leur demande, soit à la demande d'entreprise. Alors, ça peut être des salariés, ça peut aussi être des particuliers. On fait appel à moi dans des moments de doute, de rupture et de changement, lors d'un licenciement, d'une évolution de poste, d'une remise en question sur son rôle et sur sa place dans l'entreprise, par exemple, lors d'une réorientation. Dès lors qu'il y a nécessité ou envie d'évoluer par rapport à son cadre habituel de vie ou de métier. Mon métier consiste à écouter les gens, à analyser et comprendre ce qu'ils me disent ou ne disent pas d'ailleurs, parce qu'ils ne disent pas toujours ce qu'ils ne savent pas exprimer ce qui les préoccupe, notamment au sujet de leurs échecs ou de leurs difficultés. Je les aide à identifier des capacités, des potentiels, des aptitudes qu'ils ont en eux et à se les approprier. J'essaie aussi de les amener à augmenter leur capacité et leur potentiel. L'idée étant de leur permettre de savoir se valoriser, s'exprimer, parler de leur envie. Ça peut être pour une candidature, pour un entretien d'embauche, pour parler de son projet, de ses compétences, pour évoluer à un autre poste dans une entreprise. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples de mes interventions en coaching.
Bien sûr, d'ici peu, vous allez nous en parler plus en détail. Mais tout d'abord, je sais qu'entrer dans une faculté pour faire des études est une chose, mais avoir la persévérance pour aller jusqu'au bout de ses études ou de ses rêves en est un autre. Gardez-vous quelques brefs souvenirs de vos années de dur labeur à la fac, à l'université ou autre.
Cette question m'amène une réflexion et je pense qu'il est nécessaire de rappeler que dans de nombreux cas, le choix des études et du métier est encore souvent dépendant, et ça pour plusieurs raisons, de la volonté, du désir, des moyens de votre famille, de votre propre famille. Et non uniquement, ce n'est pas uniquement un choix personnel. Et dans ce choix, donc, entre en compte plusieurs éléments d'ordre culturel, financier, psychologique, cultuel, social. Il arrive que dans certains cas, la personne se retrouve quelques années plus tard face à sa vocation, du fait de sa vocation contrariée, c'est-à-dire s'engage dans des études ou dans un métier, mais qui n'était pas son choix au départ. Donc, j'appelle ça une vocation contrariée. Les gens ne se sentent plus à leur place, ne s'en sentent pas bien, voudraient changer, mais ne se sentent pas non plus en mesure de le faire.
Vous dites quelque chose là de très intéressant, c'est que pour faire des études, cela ne dépend pas tout simplement de ses rêves, de ses objectifs personnels. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu pour permettre à quelqu'un de réaliser ses rêves. Continuez avec ces explications.
Je disais, le choix d'études et par conséquent d'un métier derrière est l'objet de plusieurs éléments qui entrent en compte, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, la personne se retrouve avec une vocation contrariée. Elle a un travail, elle a un métier, elle a même un diplôme. Et puis, elle ne se sent pas à sa place, elle ne se sent pas bien, elle voudrait changer tout. Et en même temps, paradoxalement, elle ne se sent pas en mesure de faire. Elle a un sentiment résigné qu'elle va devoir mener le même métier, la même vie, toute sa vie. Et c'est dans ce contexte-là que souvent j'interviens, où les gens arrivent un peu sans trop savoir ce qu'ils cherchent, sans trop savoir ce qu'ils veulent faire, tout en sachant ce qu'ils ne veulent pas ou ne plus faire. Voilà comment les choses se posent en général, la question que se pose à moi. Donc on remet les choses à plat, on travaille sur les compétences, sur le parcours, on parle beaucoup, on esquisse des projets, on les met en œuvre, et ainsi les personnes repartent vers de nouveaux horizons avec de l'énergie, de la motivation pour aller concrètement vers une nouvelle orientation, autant personnelle que professionnelle, parce que tout ça c'est étroitement imbriqué. Et pour moi, c'est un moment extraordinaire de voir les gens repartir satisfaits et de se sentir à leur place et avec une énergie, avec une envie, ils y vont, quoi. Alors, moi, mon parcours personnel, puisque c'était la question au départ, il est, comme on me l'a souvent dit, hein, soit quand je me présentais pour des entretiens, soit pour mon parcours, est atypique. Il est jalonné d'envie, de rencontres, d'intuition, d'un certain optimisme et d'une forme d'ambition. Mmh. J'ai toujours pensé que chacun est en mesure, même en passant par des voies détournées, de faire ce que l'on a décidé de réaliser pour peu qu'on sache vers quoi l'on tend. Et que l'on ait une idée de ce qui nous plaît, de ce qui nous convient. Au départ, je suis dessinateur industriel. Donc, à l'origine, c'est un choix résigné, comme je disais tout à l'heure. C'était lié à l'endroit où j'habitais. Je suis orléanais, à mes parents, à la profession de mes parents, aux moyens de mes parents, puis aussi à mes moyens. Enfin, moi, je voulais plutôt faire des études de lettres et étudier la philosophie, la psychologie. Et d'emblée, je me suis retrouvé dans des univers qui ne me convenaient pas. Alors, j'ai été dessinateur industriel, et puis de là, je me suis débrouillé comme j'ai pu, afin de me réorienter vers mes centres d'intérêt, vers ce qui me motivait. J'ai fait une formation de formateur au Centre d'études supérieures industrielles à Orléans. J'ai été chargé d'études dans le marketing. Puis vers la quarantaine, j'ai voulu changer de métier, j'ai voulu donner du sens à ma vie, et j'ai fait une formation de psychanalyse pendant 9 ans. En même temps, je suis devenu consultant en ressources humaines, puis consultant en stratégie de retour à l'emploi à l'APEC. J'ai ensuite créé mon cabinet, qui avait notamment pour vocation de faire du bilan de compétences et de coaching. Et dernièrement, j'ai fait une certification de MBTI, dont je pourrais vous parler plus en détail si vous le souhaitez.
Bien sûr, ça doit non seulement m'intéresser, mais nos auditeurs qui vous écoutent en ce moment aimeraient s'informer, apprendre des choses qu'ils ne savaient pas avant.
Alors, le MBTI, c'est le Myers Bridge Type Indicator, enfin, j'évoquais cette formation. C'est un indicateur de type de personnalité qui est construit à partir d'une théorie de Jung, qui est un psychiatre et psychanalyste contemporain de Freud et de Adler. Il a beaucoup travaillé avec Freud. En fait, ce monsieur s'est aperçu que, avec un cas, une patiente en l'occurrence, quand elle était soumise au regard ou à l'analyse de ces trois sommités, hein, que ce soit Freud, Adler ou Jung, aucun des trois ne l'apercevait de la même manière. Donc, il a tout un travail là-dessus. Il y en a un qui l'aperçoit avec un mode de pensée, l'autre avec un mode d'intuition, et l'autre, par exemple, avec un mode de sentiment. Ce qui fait qu'on ne dit pas la même chose d'une même personne. Donc, il a fait une théorie qui est longuement expliquée dans plusieurs revues. Et cette théorie a permis d'identifier 16 types de personnalités avec des caractéristiques et des dynamiques propres. Et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, on connaît tous sur les principes, sur la façon de prendre des décisions. Soit on prend des décisions sur un mode de la pensée, soit sur un mode du sentiment. Mmh. Je choisis ça parce que ça me plaît et que j'ai envie ça me plaît. Voilà, je vais par exemple en vacances dans les Calanques, à Marseille, parce qu'il y a les grillons, etc. Ça, c'est le mode sentiment. C'est un choix d'un mode sentiment. Mais je peux faire un choix sur un mode pensée en disant, voilà, moi, j'ai 1000 euros, je ne voudrais pas faire plus de 2 heures d'avion, et je voudrais être au bord de la mer. Donc là, d'un seul coup, on a beaucoup de choix possibles. Et ce choix va être fait en fonction de caractéristiques objectives. C'est-à-dire que vous retrouviez sur la Méditerranée ou l'océan Atlantique, il y aura 2 heures d'avion, ça va correspondre à un budget. C'est pas un coup de cœur comme, moi c'est les calanques avec le bruit des cigales et le pastis, quoi.
Donc toutes ces connaissances, vous arrivez à les intégrer dans votre profession actuellement.
Voilà. Et il y a un élément qui est très important de perception. Soit on perçoit par l'intuition, soit on perçoit par la sensation. Et l'intuition est un élément qui est très important et qui, moi, pour ma part, on m'a beaucoup apporté. Enfin, c'est l'une des 4 propriétés qui structurent la personnalité. Elle occupe une place et une influence différentes selon son emplacement dans notre dynamique. Ça peut paraître compliqué, mais c'est en réalité simple à déterminer. Il faut compter une petite heure pour avoir des informations très utiles et pertinentes, à la fois sur vos possibilités et sur qui explique et qui illustre et qui image votre caractère. Alors, en positif, puis aussi les moments, des fois, où on pète les plombs. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut être expliqué, ça peut s'exprimer. Et ce MBTI, donc le Myers-Briggs Type Indicator, il est très utilisé en entreprise dans le travail d'harmonisation d'équipe. Parce que quand on a des types de personnalités différentes, on peut favoriser. C'est utilisé pour l'orientation scolaire, pour la médiation dans un couple, par exemple, et aussi pour tout ce qui est développement personnel.
Et pouvez-vous, dans ce cas, parler d'un simple choix personnel ou d'une vraie vocation en regardant votre parcours maintenant ?
Là aussi, moi, j'ai envie de dire que la question du choix et de la vocation est intéressante. Parce que pour moi, elle renvoie à la part d'intuition que possède chacun. L'intuition sur ce qui est bon pour nous, et sur ce qui est fait pour nous. Ça, il n'y a pas un mode d'emploi quand on arrive. Intuitivement, on se dit, bah, tiens, je vais aller vers ce truc-là. C'est pour ça que je reviens aussi sur cette intuition du MBTI. Donc, vous parlez de vocation, moi je réponds par intuition, donc on fait des choix par intuition. C'est toujours bon, hein, c'est toujours un bon choix, pour reprendre le mot du choix, de se diriger vers des lieux, des activités, des personnes, des études ou un métier, que l'on ressent comme étant fait ou comme étant quelque chose qui nous convient. On trouve plus facilement la ressource, l'énergie et les solutions pour se confronter aux obstacles, aux épreuves que l'on rencontre sur notre parcours, dès lors que ben, on a fait cette espèce de choix. Alors, d'aucuns diront une vocation, mais ça répond à une envie, alors pour le coup, une envie, un désir, qui peut être contrarié pour des raisons pratiques et pragmatiques de moyens intellectuels ou de moyens financiers, ou, comme je disais tout à l'heure, du choix des parents qui « tu seras un médecin, mon fils » ou « non, fais un métier technique pour assurer tes vieux jours », etc. Mais tôt ou tard, de toute façon, on est confronté à ses premiers amours. Et c'est là où il est important de ne pas hésiter à se remettre en question et à en parler à un coach, quoi. Donc voilà, je dirais que le choix, la vocation, ça renvoie à le choix fait à partir d'une intuition, d'une envie, d'un désir. Voilà.
Et quels sont selon vous, monsieur Eno Philippe, notre invité à cette première édition de Travail en détail, quelles sont selon vous les qualités indispensables pour faire ce genre de travail de coach que vous exercez actuellement ?
Déjà, de l'empathie. Il faut avoir envie d'être au contact des gens, de les écouter, sens de l'altérité, de la créativité. Il faut avoir une bonne intuition. Je dis souvent à mes candidats ou les gens que j'accompagne que mon métier, c'est un peu le métier à la fois du prêtre, du voyant et du psychanalyste. Parce que la créativité, voilà, vous êtes... Vous devez avoir plusieurs cordes à votre arc pour comprendre les gens, parce que il y a quand on est en relation, même sur un plan professionnel, il y a le personnel qui arrive, et quand il y a le personnel, il y a de l'émotion, il y a des doutes, il y a des questions, il y a de profondes, il y a des ça va bien au-delà de j'ai un bac et je bon. Alors, il faut être en capacité aussi de contenir les émotions des gens que vous avez en face de vous, qui peuvent être de la peine, de la colère, du doute, du désespoir. Moi, j'ai vu des larmes, j'ai vu de la colère, j'ai vu du mutisme, j'ai vu... l'idée, c'est d'être capable de recevoir tout ça de son interlocuteur et de continuer de l'accompagner, c'est-à-dire de ne pas le prendre contre soi ou pour soi. On n'est pas là, faut surtout pas projeter sur l'autre ses propres désirs, ses propres angoisses. Il faut être respectueux de la personnalité, du rythme, de l'histoire de la personne que l'on accompagne. Il y a la confidentialité qui est importante, le respect. Il est important de ne pas être, enfin, il est important d'être très présent, que la personne se sente soutenue, en sécurité, en confiance, pour pouvoir exprimer ce qu'elle garde en elle parfois depuis très longtemps et qui est de toute façon quelque chose de précieux. Voilà. Une difficulté aussi peut en réveiller une autre. Enfin, peut réveiller une douleur plus profonde. C'est-à-dire, vous venez parce que vous avez perdu votre travail, vous venez parce que vous sentez que vous êtes un petit peu harcelé dans votre métier, vous venez parce que vous avez une peine de cœur, mais ça peut réveiller quelque chose de plus profond, de plus enfoui, et il est important de sentir et de comprendre tout ça. Et encore une fois, il est important de pouvoir et de savoir comment on aide les gens, parce que les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. On a des gens qui sont parfois confrontés à une situation de deuil. Alors, réellement, on a perdu un être cher, mais de deuil sur ce qu'on perd, quoi. C'est toujours des situations d'injustice, où il y a un sentiment d'injustice, un sentiment de perte, que ce soit un parent, un proche, une liaison, des habitudes, hein. J'allais tous les matins travailler, j'avais mes collègues, puis d'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai plus rien. Ou même évoluer, c'est-à-dire que on vous promeut à un poste plus élevé, ben vous vous retrouvez dans une situation que vous ne savez pas forcément gérer parce que d'un seul coup, vos collègues ou vos collaborateurs vont vous regarder d'un œil de suspicion, de jalousie, le regard des autres change sur vous et vous perdez vos repères. Donc c'est toutes ces choses-là qui est important à prendre en compte. Et de toute façon, toute rupture, hein, qu'elle soit, tout changement professionnel ou personnel est de toute façon une rupture. Il y a des pertes, il y a des douleurs. Il est important de prendre en considération tout ça. Et il est nécessaire de donner du sens à ces pertes-là pour pouvoir reconstruire et ensuite se reprojeter vers l'avenir et libérer et mobiliser des énergies positives pour mener à bien son projet, quoi.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent la radio Ebenezer International à l'heure de la première édition de ce nouveau programme Travail en détail et que notre invité est Monsieur Eno Philippe, un coach basé en plein cœur de Paris. Nous allons prendre une première pause musicale, mais juste avant, si j'analyse bien votre intervention, je peux comprendre qu'une promotion dans le travail n'est pas toujours quelque chose de positif. Il y a des choses négatives que va expérimenter l'être qui accepte volontiers avec joie cette promotion. Qu'en pensez-vous?
Mais je suis... Alors, négatif, c'est pas forcément le mot, mais de toute façon, la personne va être confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Alors, même si dans ses rêves, dans ses souhaits, je voudrais être cadre, avoir une belle voiture, être responsable d'une équipe de 3 personnes, diriger, manager. Qui n'a pas ce petit désir-là au fond de lui, cette petite fierté-là, c'est une chose que de le vouloir, c'en est une autre que d'en assumer. Et je ne parle pas des compétences ou ni même de la responsabilité, je parle de la légitimité. C'est-à-dire, est-ce que je me sens légitime d'un seul coup pour manager, pour diriger des gens, pour leur dire, on passe, si vous voulez, du... Je vais prendre l'exemple de la commerciale. Je suis un très bon commercial, j'ai des très bons résultats, je vends super bien, on me reconnaît comme étant quelqu'un de compétent, qui a de la valeur, et puis bah, la société augmente, crée une filiale, et on me demande d'être le responsable commercial. Ah bah oui, volontiers, je vais y aller, je vais gagner un peu plus d'argent, et puis bon, bah voilà. Mais quand on va se retrouver avec des gens qui, un mois avant, étaient vos collègues commerciaux comme vous, alors, ah oui, il est super bon, il a des très bons résultats, c'est un super commercial, ah oui, il bosse bien. Mais dès lors que vous allez devenir leur responsable, ils vont se dire, mais ils mangent dans la main de la direction. Alors vous allez l'impression d'être déconsidéré, de ne plus faire partie du groupe, d'avoir on va vous-même peut-être vous dire que vous avez trahi. Donc tout ça, faut l'endosser, cette légitimité-là.
C'est le mot
juste. Et après, il faut savoir faire. Donc donner des consignes, des objectifs aux gens, les faire respecter, donc avoir une forme d'autorité. Et c'est d'autant plus difficile qu'on a affaire à des gens avec lesquels, souvent, on a une expérience, un vécu assez long, un même niveau de hiérarchie et de rémunération, et qui, eux, ne vont pas vous laisser passer comme ça. Donc là aussi, le coaching est important. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les gens à endosser le costume et être dans cette légitimité-là. Bah voilà, oui, bah, moi je t'aime bien, t'es toujours mon pote, mais bon, j'ai des objectifs, je te confie des objectifs. Moi j'ai un objectif de faire réussir le secteur, je te confie cet objectif-là, il faut y aller ensemble. Donc c'est un autre discours, c'est un autre regard, on a un autre regard des autres. Et c'est tout ça qui est à assumer.
Et si je veux résumer les qualités qu'il faut à quelqu'un qui fait votre travail, c'est qu'il doit être quelqu'un de cœur, quelqu'un qui a un cœur pour écouter les autres, pour les sentir, pour les comprendre, tout simplement. Il faut avoir un grand cœur.
Il faut ne pas être cardiaque.
Et bien, pour cette raison, écoutons l'artiste Michel Schaeffer qui va nous interpréter un morceau intitulé « Un cœur qui bat » que je dédie à tous les nouveaux auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour la première fois. Bonne écoute à toutes et à tous.
Travail en détail.
On parle du soleil. Je parle de mon cœur qui bat, plein de sourires et de larmes. Je parle de mon cœur qui bat, cœur qui bat et qui combat. Lui qui ne rêve que d'être pur, que d'être pur, qui est pourtant presque aussi dur que la pierre se brille au cœur de la banquise. Mais parfois j'entends un cœur qui bat, plein de sourires. L'arbre. Parfois j'entends ce cœur, un cœur qui bat, qui fait déposer les armes. Lui qui nous dit dans un murmure que l'on entend, depuis l'azur. Il nous emportera. Ce cœur qui bat, plein de sourires et de larmes. Ce cœur qui bat pour toi, 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 et moi, qui nous fait poser les armes. Que l'on entend depuis l'azur, que le vent s'est levé, qu'il peut nous emporter.
Auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous suivez la première édition de Travail en détail avec notre généreux invité, Monsieur Philippe Hénaud. Bien, Hénaud Philippe, on peut l'inverser aussi parfois.
Comme vous le sentez, là, il n'y a pas d'ordre ni de prescription sur le sujet.
Voilà, continuons avec notre débat, si j'ose dire. Le travail, Monsieur Hénaud, fait partie des grandes priorités humaines. On en cherche, on en trouve, on en garde et on en rêve, on en laisse parfois. Comment définissez-vous le travail ?
Alors, le travail, effectivement, comme vous dites, on en perd. Le travail, c'est, je pense que c'est un élément constitutif de la vie et de la liberté des gens. Et tout le monde devrait avoir la possibilité d'avoir la joie d'exercer un métier pour son épanouissement, pour son développement. et aussi pour nourrir sa famille et aussi avoir des loisirs, etc. Je pense, moi, que le travail est une valeur qui fait appel à deux, à une entreprise et à des salariés. Et je pense que le développement, le progrès, l'évolution de l'entreprise passe par l'évolution, le développement de ses salariés et que ça appelle de part et d'autre à une considération mutuelle et réciproque, c'est-à-dire que l'entreprise doit considérer ses salariés et les salariés doivent aussi considérer leur entreprise.
Mmh, effectivement.
Alors tout ça, c'est un petit peu malmené dans la conjoncture dans laquelle on est. Alors, par rapport au travail et par rapport aux salariés, moi, je vois que souvent les gens ne connaissent pas bien leurs capacités et les résument leurs capacités et leurs possibilités à ce qu'ils ont un jour noté sur leur CV et qui ne concerne, hélas, que leur formation et que leur expérience. En gros, j'ai tel diplôme, alors j'ai un CAP, j'ai un bac, j'ai un master, j'ai un DESS, peu importe, mais ça s'arrête à ça. Et puis, j'ai travaillé 2 ans en tant que commercial, qu'ingénieur, que responsable informatique chez Tartampion ou chez Intel, et puis 15 ans chez Intel, et j'étais embauché comme ceci, et je suis devenu cela, et ça s'arrête là. Or, le capital de chacun est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que sa formation et que son expérience. Et autour du travail, beaucoup de choses sont en jeu. Il y a l'image qu'on a de soi, que l'on a de soi, sa valeur en termes de statut, de rémunération. Il y a aussi ce qui est en jeu, c'est son désir de reconnaissance, d'évolution, qui renvoie non seulement à sa formation et à l'expérience, mais aussi à ses aptitudes, ses compétences, sa motivation, ses ressources, son potentiel. Et tout ça, les gens ne savent pas. Ils n'en parlent pas, ils n'ont aucune idée de tout ça. C'est presque de l'impudeur. Quoi. C'est comme si on disait, on leur demandait de se mettre tout nu. Mais c'est dans les moments difficiles de rupture, de changement, de difficulté, où tout est remis en question, qu'on perd son travail ou qu'on doit évoluer, qu'il faut savoir faire appel à ses potentiels, ses ressources, etc. Alors le travail, c'est aussi un bien dont 10% des Français aujourd'hui sont privés. Moi, en 2011, j'ai accompagné plusieurs demandeurs d'emploi. Je connais bien cette situation. Je sais ce qu'elle abîme au fond des gens, ce qu'elle désespère, ce qu'elle froisse, ce qu'elle amène de désillusions, etc. chez des gens concernés. Cette situation, elle est injuste. Mais elle peut être aussi l'occasion de reconstruire et d'aller vers une activité et une situation qui peut nous convenir davantage et dans laquelle on se sent mieux. Et il faut de toute façon miser. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir qu'on a une capacité de créer individuellement, vous comme moi, comme monsieur et madame Tartampion, hein, qu'on a du potentiel, qu'on a des capacités et des ressources importantes et qu'il n'est pas honteux d'aller vers autre chose et de se faire aider pour cela. C'est-à-dire que quand on a une blessure au bras, on va chez le toubib, on va chez le médecin. Alors si c'est les dents, chez le dentiste. Si c'est une autre partie du corps, on va chez le podologue. Enfin, on peut se faire aider. Il y a des gens dont c'est le métier de vous rassurer et ça ne demande pas forcément des années et des années. Ça peut demander quelques séances.
Nous poursuivons avec notre émission « Travail en détail », un programme qui se focalise sur les diverses facettes du travail. Monsieur Hénaud Philippe, le travailleur ou bien l'employé est donc quelqu'un qui vend son service, son savoir, ce qui implique donc des devoirs. Pourriez-vous nous les résumer en très peu de mots, ces devoirs d'un employé, d'un travailleur ?
Les devoirs de l'employé, du travailleur, enfin, autour du droit et des devoirs, il se joue beaucoup de choses. La question, notamment, de la légitimité. C'est-à-dire que je peux avoir... Et les gens se comportent davantage en débiteurs vis-à-vis de leur employeur, c'est-à-dire qu'ils estiment lui devoir beaucoup de choses. Plutôt que le contraire. Et il y a une question de légitimité. Les gens n'osent pas saisir leurs droits, ne s'autorisent pas à le faire. Il y a une sorte de position qui est celle, position de sécurité, comme celle de l'enfance, où les parents décident de ce qui est bon pour vous. Alors, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas le choix que de faire que ce qu'on vous demande ou qu'on décide pour vous. Là, aujourd'hui, les gens n'osent pas se saisir de leurs droits, n'osent pas, ont peur de déranger. Alors, on évolue dans ses compétences par devoir, on s'acquitte de ses tâches, mais on n'évolue pas en autonomie, ni sur la maturité qui conduit à choisir ce que l'on veut, et ce que l'on veut et ce que l'on veut faire pour être en harmonie avec soi-même. Les gens ont peur. Les gens sont souvent, comment vous dire, fonctionnent au mérite. C'est-à-dire qu'on va bien travailler. Mais c'est je trouve, peut-être un reliquat, un reste de l'enfance. C'est-à-dire que je travaille bien, donc mon employeur ou mon supérieur ou mon responsable va me dire « bah tiens, j'ai tel poste pour toi ». Donc c'est ça, fonction de mérite. Et l'ambition, tout ce qui concerne l'ambition, tout ce qui concerne le projet, les gens sont beaucoup plus timides là-dessus. Alors, on peut comprendre aussi cette position-là, parce que, si, et je l'ai vu dans de nombreux cas, si je vous dis, vous êtes mon patron, bonjour patron, je voudrais... Je voudrais être responsable de ce secteur-là. Bon... J'argumente mon choix, ma décision, voilà, j'ai obtenu tel résultat, j'ai développé telle compétence, je sens que je veux aller là-dedans pour donner dans cette activité-là, pour donner du sens, j'ai besoin de responsabilité, j'ai envie d'élargir, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de plus de responsabilité. Si je le fais de moi-même et que j'échoue, je m'en prendrai qu'à moi-même. Et de faire la demande d'une évolution ou d'une promotion, je prends le risque de la réussite, certes, mais aussi de l'échec. Et je me mets une pression. Inversement, si c'est vous qui me dites « Ah, dis donc, Esno, j'ai besoin d'un responsable. » Je vais me dire « Bah, finalement, il a décidé que je faisais l'affaire. Je me retire une pression. Et je vais faire mon boulot beaucoup plus paisiblement, puisque le risque, c'est vous qui le prenez. Vous prenez le risque de me mettre à une place où je suis pas forcément bon, j'accepte que vous preniez le risque de dire, bah tiens, il est bon, je vais le mettre là. Et donc, les gens se soulagent beaucoup, vous voyez. Et ce qui pose un problème souvent aux gens, c'est la prise du risque. Alors, et je mettrai en parallèle le risque de perdre comme le risque de réussir. Enfin, le risque de l'échec comme le risque de la réussite. Les gens ont aussi peur d'échouer que de réussir.
Donc, c'est deux vont de pair, quand même.
Réussite et échec, évidemment.
Que ce soit vous qui êtes à la base de cette initiative pour votre promotion ou bien une proposition de votre responsable.
C'est pas du tout la même chose.
Mais il y a toujours ces deux facteurs, risque et réussite.
Il y a moins de pression. Il y a moins de pression si c'est vous qui me dites, bah tiens, j'ai pensé que à partir du mois prochain ou de la rentrée, tu vas t'occuper de ce secteur-là. Je me dis, ben, puisque lui le pense et que c'est mon chef, il a sûrement de bonnes raisons de le penser, donc ben, je vais y aller. Ça me retire une pression. La pression du résultat, je me dis, voilà, il me confie ça, c'est parce qu'il pense que je suis bon. Inversement, faire la démarche, je veux dire, boss, je voudrais à la rentrée être responsable de cette division-là. Je challenge, j'ai intérêt à... Je me mets une pression, quoi. Et souvent, j'ai envie de dire, à compétence, à capacité, à potentiel égal, les gens vont plutôt rester dans l'attente qu'on vienne leur proposer d'évoluer, donc d'être sur une évolution au mérite, plutôt que d'être sur une évolution à l'ambition et au projet.
Monsieur Philippe et Esno, vous avez fait la correction indirectement. Moi, je m'amusais à dire Esno, donc c'est Esno.
Oui.
ma question consistait à vous pousser à mettre l'accent sur le devoir ou les devoirs de l'employé avant même de signaler ses droits. Mais vous avez abondé dans l'autre sens. Il semble que pour vous, le mot devoir est tellement maîtrisé par les employés qu'ils oublient ce mot devoir, ce mot droit, pardon, auquel ils ont aussi droit.
Oui. Alors, mais le droit, j'ai envie de dire, c'est le droit à l'ambition, et pour beaucoup, c'est un terme péjoratif, quoi. Les gens fonctionnent plutôt au mérite, en pensant que l'évolution de leur carrière est comme une récompense qu'on leur accorde parce qu'ils ont bien travaillé, quoi. Et beaucoup de gens, ainsi, ne saisissent pas leurs droits. Par crainte de... Alors, C'est une crainte avérée, réelle ou supposée de contrarier, d'être mal vu. Mais aussi, c'est paradoxalement une forme de confort parce que ils appréhendent, parce que parfois ils appréhendent de ce qu'ils pourraient découvrir en changeant. La crainte d'être confronté à autre chose d'eux-mêmes, quoi. La crainte d'être confronté à nouvelles attentes qu'on pourrait leur adresser. Et là, ça renvoie à la notion du choix que l'on a abordé en début d'entretien. C'est-à-dire que je préfère... je ne sais pas ce qu'on va attendre de moi. Donc ça met dans une forme d'inconfort. Quoi. Et donc on ne choisit pas. On préfère que les autres choisissent pour nous. Et pour en revenir au droit dont vous parliez, il y a différents... Il y a le droit à la formation, qui est un droit... qu'on a dans nos... Enfin, il y a le droit au congé, il y a le droit au congé payé, il y a le droit à l'absence, il y a le droit à la formation pour évoluer. Là, les gens, c'est pareil, s'en saisissent rarement ou tardivement de peur de déranger. Dès lors que vous travaillez dans une entreprise, votre employeur et vous-même créez des droits pour vous à faire un bilan de compétences, à faire une formation derrière. Alors évidemment que c'est soumis à des conditions, c'est-à-dire d'admission d'un certain niveau, mais tout le monde peut se former. Et puis il y a le fameux DIF, droit individuel à la formation, qui est un petit capital d'heures qui permet aux gens, indépendamment de leur activité, vous êtes comptable, mais imaginez que vous vouliez dans 5-6 ans ouvrir un petit gîte ou un petit restaurant, ben, rien ne vous interdit tous les ans d'aller vous former sur la gestion, sur le management, sur la cuisine. Et c'est le droit individuel à la formation. Souvent, ce droit-là est détourné par les entreprises pour que les gens se forment dans le métier dans lequel... pour lesquels on les a embauchés. Le comptable, il va être formé sur un logiciel de compta. Or, non. Si le comptable veut se former à la cuisine ou au macramé ou que sais-je, il a ce droit-là pour lui.
Quand on circule, par exemple, à Paris, dans le métro parisien, partout on trouve des panneaux de signalisation, dirigez-vous dans quel sens, allez, sens interdit, etc. Même dans les rues, il y a tous ces panneaux qui orientent les conducteurs, les piétons. Est-ce qu'à votre avis, il n'aurait pas dû avoir des fiches de signalisation comme ça pour dire aux employés, voilà, vous avez tel droit, n'oubliez pas, vous avez telle obligation, mais pensez aussi à vos droits. Est-ce que c'est trop idéal, cette façon de penser?
Ça existe. Non, c'est rigolo en tout cas. mais ça existe plus ou moins. Il y a par exemple le fonds Gessif, pour ne pas le citer, qui a fait des campagnes de publicité. On peut... à tout moment saisir ces organismes-là pour savoir où on en est de ses droits, la formation, etc. Mais les gens sont assez timides. Il y a une espèce de crainte de déstabiliser. Les gens se disent, mais si mon employeur sait que je vais faire un bilan de compétences ou par exemple que je vais faire une formation, il va croire que je veux partir et ça va mal se passer. Enfin, les gens ne sont... Comment vous dire ? Je pense que pour évoluer, en général, il faut avoir une capacité à transgresser un peu. Or, les gens ont vraiment peur de transgresser. Et là, pour le coup, le coach, celui qui vous accompagne dans un bilan de carrière, un bilan de compétences ou un coaching, est celui qui va porter pour vous la responsabilité de la petite transgression, c'est-à-dire bah, écoutez monsieur ou madame, allez donc voir telle entreprise, allez faire votre offre, voyez votre manager ou votre N+1 pour lui dire que vous avez tel projet. Là les gens se disent, ah si on a parlé et puis on a étayé le projet, je peux donc y aller. Donc ils vont oser, ça va permettre aux gens de oser, parce que les gens n'osent pas et ils croient encore une fois que de oser c'est tout casser, tout détruire, c'est déstabiliser l'ordre ambiant. C'est pour ça que je parle d'une capacité à transgresser, c'est-à-dire, bon, ben voilà, la norme c'est ça, mais moi je vais faire comme ça. Et j'ai le courage et l'envie de le faire et de parler de ce que je veux faire. Et généralement, les employeurs ou le responsable d'une entreprise, c'est pas le méchant loup qui interdit, c'est-à-dire que les gens, eux, ces gens-là, ont aussi leurs responsabilités et ne sont pas au fait de tout ce que leurs salariés voudraient ou souhaiteraient. Ce sont des gens qu'il faut rencontrer, ce sont des gens avec lesquels il faut parler, auxquels il faut soumettre des projets, et ils y sont assez ouverts dans la mesure où c'est étayé. Et je dirais que de saisir ou de consulter son responsable, son N+1, enfin, que sais-je, c'est un moyen aussi d'entrer en négociation et de fixer des termes. Bon, c'est pas possible aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 6 mois et on fait le point. Mais voilà, on ne peut pas laisser son devenir et son évolution en entreprise comme ça, dans les expectatives ou à la merci d'aléas. Voilà.
Donc, monsieur Philippe Hainaut, si je comprends bien, beaucoup de gens vivent sous une peur, sous la domination d'une peur qui, semble-t-il, n'a aucun fondement légal.
Ben, légal, non. Elle n'a pas de fondement légal. Mais j'ai envie de vous dire, cette peur est confortable. Ça évite de se remettre en question et ça évite de se confronter à des choses, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, de soi. C'est-à-dire, ah ben non, mais moi, de toute façon, dans ma boîte, on n'évolue pas. Bon, d'accord, mais c'est marqué où? C'est écrit où? Ah mais non, mais moi je reste dans cette société parce qu'ailleurs ça va être pareil. Ah bon, c'est écrit où? C'est une forme de confort, c'est-à-dire c'est un moyen de dire, d'abord c'est un moyen identitaire de dire j'existe et je subis quelque chose, je suis dans des conditions difficiles. Et en tout cas, on ne se remet pas en question. C'est assez confortable. Parce que quand on se remet en question et qu'on a envie d'aller plus loin, effectivement déjà on voit ses limites. Ah ben non, je ne suis pas capable de faire ça, j'ai peut-être pas le bagage pour le faire, j'ai peut-être pas les connaissances pour le faire. Ça veut dire aussi, peut-être, repartir vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles formations. Ça veut dire aussi se remettre en question et rebattre le fer, si je puis dire, hein, comme on dit pour le forgeron, et repartir avec de nouveaux outils, de nouvelles convictions, une nouvelle envie, et ça... On peut se plaindre, voir les gens ne pas se plaindre du tout, mais subir. C'est plus difficile de dire, voilà, je repars, j'attaque, je vais vers autre chose.
J'entends une cloche qui vient de sonner, là. Je ne sais pas d'où vient ce son.
Il y a une petite église à côté qui sonne.
Voilà, peut-être qu'on sonne notre deuxième pause musicale.
Peut-être.
Mais voilà, l'artiste Pio Badri qui va nous interpréter un morceau intitulé « Loin devant », encore pour booster, pour coacher, pour encourager nos auditeurs qui ont besoin de ce genre d'aide en ce moment. Bonne écoute à toutes et à tous.
Travail en détail.
Battery sounds. Battery sound. Piero. You know. Tell a friend it's Jahar Zell again. We're moving far ahead right now. Piero.
Quand le stress envahit l'espace sans qu'on puisse le maîtriser. Quand on pense au tracas sans cesse, à tous nos espoirs brisés. Pour effleurer le ciel, quoi qu'on dise autour de toi, y croire c'est l'essentiel. Ne te décourage pas. Les difficultés te feront abandonner. Continue d'aller vers l'avant et le cœur bien accroché. Pour effleurer le ciel, quoi qu'on dise autour de toi, regarde vers le ciel.
Tout est possible quand tu crois. Moi devant, garde les yeux fixés. bouncing back. Gotta keep the faith when the doubts attack. Gotta keep my eyes where the mountains at. Climb high like council flats. I ain't counting stacks, but I'm glad I'm out of that now. Trust me, I don't know how to back down. I've been homeless, had a dream and struggle to keep focused. Man, it seemed hopeless. Life's a test, you gotta press to it. We ain't gotta waste no time, so let's do it. Jahazel, don't get it, Mr. Piero. Just let him know, sing that hook. Come on.
Que vous suivez la première édition de Travail en détail, une édition réalisée aujourd'hui en plein cœur de la ville de Paris. Vous venez d'écouter le son de la cloche de cette petite église qui se trouve juste à côté. Et bien voilà, nous avançons avec notre programme. Notre invité, Monsieur Esno Philippe, nous a accueillis très amicalement, très chaleureusement. Nous continuons avec notre programme. Monsieur Esno, quelqu'un qui se trouve dans cette situation de crainte servile dont nous venons de parler, doit-il rester sans rien faire? Quelles doivent être ses démarches?
Servile, je ne pense pas. Enfin, voilà, les gens, c'est pas... On peut les comprendre aussi, parce que pour pouvoir transgresser, comme je disais tout à l'heure, et remettre en question... alors, il y a la peur de déranger dans son entreprise. Il y a la peur aussi, parfois, de ne pas y arriver ou de dire « bon, c'est une illusion, ça va me passer ». Parce que derrière tout ça aussi, on n'a pas le droit au faux pas ou à l'erreur. C'est-à-dire que les gens ont des familles à nourrir, ont des enfants, ont des endettements, ont des charges. Et c'est pas facile, ne serait-ce que sur ces points objectifs, de prendre un risque. Là, pour le coup, la société, si je puis dire, devrait pouvoir permettre des passerelles, des transitions, des paliers comme ça, des sas de réflexion. Le bilan de compétences servait à ça à une époque. Un coaching avec quelqu'un de compétent peut le permettre aussi, c'est-à-dire on réfléchit. Il ne suffit pas de changer comme ça sans avoir mis les choses en place. On revient au droit, je parlais tout à l'heure du droit du DIF, du droit du congé individuel de la formation, le droit du DIF, droit individuel de la formation. Ce sont des dispositifs qui permettent aux gens que leur formation, que leur réflexion soit prise en charge financièrement, mais ce sont des droits qu'ils ont parce qu'ils ont cotisé. C'est comme le droit au chômage, quand on a travaillé, on a une allocation chômage, etc. Donc tout ça, ce sont des droits. Mais il faut s'en servir à bon escient pour réfléchir à ce que l'on peut faire. Et parce qu'en chacun de nous, il y a ce potentiel et cette capacité de recréer, de repartir à zéro. Enfin, pas de repartir à zéro, mais de repartir, de transférer ses compétences. Je suis, par exemple, je dis n'importe quoi, responsable logistique dans le transport. Rien ne m'empêche demain de transférer mes compétences. Donc, on sait faire des choses en transport qui peuvent être utiles demain dans le monde du cinéma, d'être responsable logistique ou d'être dans la logistique du cinéma. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On peut changer aussi de secteur. Enfin, tout ça, c'est possible. Et il faut se préparer, et il faut mettre une stratégie en place, et c'est le travail qui est le mien. Mais les gens, effectivement, ont parfois des réticences à faire tout ça, parce que d'un seul coup, ça leur semble compliqué, laborieux, et effectivement, on ne communique pas beaucoup sur tout ça. Mais c'est pas, on peut pas leur, on peut pas leur leur en vouloir dans le sens où ils sont pas serviles, ils sont pris dans un engrenage. Et là encore aujourd'hui, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne travaillent pas pour vivre, ils travaillent pour survivre.
Pour survivre.
Donc il n'y a pas de place à la créativité, il n'y a pas de place, il y a juste, on travaille pour évacuer l'angoisse, enfin le travail que l'on fait permet juste de limiter l'angoisse de la fin du mois, quoi. Mmh. Comment je vais nourrir mes petits, et donc c'est quand même pas très satisfaisant, ça mène pas loin, quoi. Et quand une population en est arrivée là, là, pour le coup, on peut parler de faillite humaine, on peut parler de faillite au sens large du terme, quoi, parce que on ne devrait pas, aujourd'hui, travailler uniquement pour survivre. Il y a une époque de nos grands-parents où on travaillait la terre, où on travaillait dur, mais on avait aussi de l'espoir, on avait la possibilité d'une construction, là, aujourd'hui, les gens sont seuls dans leur coin avec leurs difficultés, et tout le monde est isolé, et tout le monde est renfermé dans une espèce de frustration parce qu'il y a une espèce de honte, une espèce d'opprobre.
Oui, effectivement.
Et de perdre son travail, on appelle le demandeur d'emploi, c'est déjà extrêmement péjoratif. C'est comme si on l'appelait le perdeur de l'emploi. Mmh. Il a perdu son boulot, on le monte du doigt. Et là, il vient demander. Pourquoi on l'appelle pas un quémandeur d'emploi aussi pendant qu'on y est. Toutes ces choses-là montrent bien comment est considéré celui qui n'a plus la chance ou n'a pas la chance d'avoir un travail, quoi.
Quand on suit les actualités, il y a pas mal de gens qui souvent se suicident juste après avoir perdu leur emploi ou bien même pendant qu'ils travaillent sur le lieu du travail, ils se suicident. Donc nous pouvons comprendre vraiment que la société actuelle a une très mauvaise conception de quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est à la recherche d'emploi. Est-ce qu'on ne doit pas travailler aussi sur cette image négative qu'on a de ces personnes pour mieux les aider, je ne dis pas pour les encourager dans leur situation, mais les aider à voir leur situation autrement pour pouvoir la changer et la transformer.
Je réfléchis actuellement, justement, c'est marrant que vous posiez la question, sur une approche qu'on pourrait avoir. Enfin, je vous ai dit que j'ai accompagné une centaine de demandeurs d'emploi, enfin un peu plus d'une centaine l'an dernier, sur des prestations Pôle emploi notamment. Il faut prendre en compte toute la problématique du demandeur d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, c'est quelqu'un qui est d'un seul coup perdu, éloigné de ses repères, de ses habitudes, de son cadre, de l'image qu'il avait de lui-même, du regard qu'on lui portait, alors que ce soit au travail, que ce soit ses enfants, que ce soit sa femme, que ce soit sa famille, que ce soit ses voisins, il est frappé d'opprobre et il n'a que comme seule possibilité, on ne le prend en compte que sur ses compétences, que sur sa formation, et on ne prend pas en compte ce qui a été cassé chez lui, ce qui a été nié, dévalorisé quand il n'a pas fait l'objet d'un harcèlement avant, quand il n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif, quand il n'a pas fait... Les gens travaillent, ils y mettent leur cœur, ils y mettent leur âme, ils y mettent tout ce qu'il y a, et ils le font dans un sens de devoir pour leur famille, et etc. Mais tout ça, quand du jour au lendemain, vous n'avez plus de boulot, c'est lourd à porter. Et il y a des gens fragiles, et la société avec ne prend pas en compte ça. Les consultants qui sont en charge et les dispositifs qui sont mis en place ne prennent pas en compte cette réalité humaine de la personne qui a perdu son emploi. C'est-à-dire que si on commençait à parler de tout ça, déjà le taux de chômage serait moins élevé, les gens repartiraient. Le taux de chômage, il est élevé en France aussi parce que beaucoup de gens restent au chômage longtemps. Alors, il y a la crise, effectivement, qui ne permet pas de créer des emplois. Il y a la crise aussi qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui licencient. Mais parmi tous ces gens qui sont sans emploi, si on les prenait en charge sur les problématiques humaines et qu'on puisse leur montrer très rapidement qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont des capacités, on conduirait beaucoup de gens à recréer, à partir à la conquête de l'emploi, à savoir s'exprimer, à avoir confiance en eux, à exprimer leurs projets, à exprimer leur envie, à aller frapper aux portes. Et on rentrerait dans une dynamique. Or, c'est pas quand vous faites pointer des gens une fois par mois que vous les menacez de les radier si ils vous ont pas donné tel ou tel papier. C'est pas parce que vous allez faire un CV avec eux ou une lettre de motivation que ça, ça va les dynamiser. Il faut que quelqu'un soit en mesure de les entendre là où ils ont un problème. Et bon, moi, j'accompagnais des gens sur ce qu'on appelle le BCA, le bilan de compétences approfondies. Et c'était un prétexte, en fait, pour parler de beaucoup de choses et faire du coaching. Et beaucoup des gens que j'ai accompagnés ont retrouvé du travail. Beaucoup. C'était pas le but de cette opération. Mais moi, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de redonner confiance aux gens et de leur dire, voilà... remettez-vous dans l'activité, même si, parce que ça excite pas grand monde de retrouver un emploi, quand bien même ce serait le même emploi que vous aviez 6 mois avant, d'avoir perdu 20% de rémunération, parce que c'est aussi ça qui se passe. À poste égal, vous étiez, je pense, une dame qui était responsable de recrutement dans un grand groupe, elle perd son poste en février. Je l'ai accompagnée pendant un mois et demi. Elle ne retrouvait plus de travail depuis 6 mois. Moi, je la raccompagne un mois et demi. Elle retrouve un poste. Entre-temps, elle a perdu, et c'était l'an dernier, elle a perdu 20 ou 25% de son salaire. Donc, ça excite personne. Mais si on peut faire comprendre aux gens que d'accepter un poste, c'est de nouveau de recréer du lien, de se retrouver dans une dynamique et d'être porté par des contacts, des relations et de se retrouver de nouveau à flot, ça aide. Et je dirais que, je prendrais cette métaphore-là, c'est que si l'employabilité, si les qualités ou les caractéristiques de la personne qui travaille, si c'est une grosse boule, imaginons une boule de glace, grosse boule de glace, quand vous travaillez, elle est dans le congélateur. Voilà. Donc elle se conserve. C'est-à-dire, c'est la capacité de rentrer en relation avec des clients, avec des collègues au bureau, d'échanger, de réagir à une commande, de répondre au téléphone, de rentrer chez soi le soir avec l'impression d'avoir fait son travail et de dire, bah tiens, on va pouvoir acheter ou partir en week-end ou habiller les enfants. Plus longtemps vous resterez éloigné du monde de l'emploi et du travail, c'est-à-dire plus longtemps vous serez indemnisé comme chômeur ou non indemnisé d'ailleurs, plus le temps passe, plus votre boule n'est plus dans le frigidaire, plus elle diminue. Et avec ça diminue beaucoup de choses de vos capacités, de vos qualités et de vos aptitudes intrinsèques, c'est-à-dire dans l'individu. Donc il n'est pas bon de rester au chômage longtemps et il n'est surtout pas bon que la société, via le Pôle emploi ou tous ces organismes, ne prenne pas très rapidement la mesure de l'accompagnement individualisé à une personne et sur lequel on aborde les problèmes liés à cette perte de l'emploi, c'est-à-dire cette dévalorisation, cette impression d'injustice, ce sentiment d'injustice. Et je ne parle pas des gens, et j'en ai vu beaucoup, qui ont fait des burning out, c'est-à-dire qu'ils ont tellement la pression qu'ils pètent les plombs et qui sont là pour le coup, qui relèvent de traitement psychiatrique pendant quelques temps parce qu'ils font des dépressions trop fortes. Mais tout ça, c'est parce que ce ne sont pas eux qui sont malades, c'est la société qui est malade, qui va mal, quoi.
Monsieur Philippe Esnault, notre invité à l'émission Travail en détail, nous venons de parler beaucoup sur le cas des gens qui sont à la recherche d'emploi. Mais avant de passer à autre chose, si nous prenons par exemple le sujet qui concerne le bien-être au travail, beaucoup de gens qui sont actuellement au chômage et qui peut-être n'ont pas envie de reprendre du travail, ne pensez-vous pas qu'ils sont parfois terrorisés par certaines expériences négatives qu'ils ont eues pendant leur travail, que ça augmente leur peur de se lancer, de oui, prendre de nouvelles initiatives?
Oui, je vous parlais tout à l'heure du burning out. C'est cette façon que les gens... Je parlerai d'un syndrome du trentenaire. Il y a beaucoup de gens qui, autour de la trentaine, avaient une bonne formation, une bonne expérience, des responsabilités avec une bonne rémunération, et qui
sur les, qui avaient une pression en termes de résultats, en termes de responsabilité, et qui ne veulent pas lâcher le morceau, c'est-à-dire qu'ils ne, ils ne se fixent pas eux-mêmes des limites et n'en fixent pas de limites à leur employeur. Donc, ils pètent les plombs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la pression, les gens, ils rentrent chez eux, il y a encore le BlackBerry qui fonctionne, ils bossent le soir, ils bossent le week-end. Enfin, il y a un moment, ils sont... ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire que s'ils lâchent le morceau, ils perdent leur boulot, parce qu'il y a cette pression-là. Et si... s'ils font leur travail, il y a un moment, ils saturent, donc ça disjoncte. Donc effectivement, des gens, dans ce cas-là, j'en ai eu de nombreux, et je pense à une ou deux personnes en particulier, qui ont décidé, ce sont des gens qui arrivaient sur le parking le matin de leur entreprise, et qui vomissaient, quoi. Parce que tellement, c'était mal. Donc, je pense à une femme qui était styliste, et une autre qui était responsable d'achat dans un grand magasin, une autre femme qui était responsable de projet dans un gros cabinet réputé, justement pour sa qualité d'intervention sur les ressources humaines et audit, une personne aussi qui travaillait dans l'audiovisuel, là comme ça et qui me vient à l'esprit, ces gens-là, pour eux, de parler de leur ancienne expérience, les mettait dans un état, ils pleuraient, quoi. Et si je leur disais, mais on pourrait peut-être imaginer retrouver un emploi dans un autre secteur, enfin, dans une autre chaîne de télé, ou dans une autre... Et là, les gens, c'était pas possible. Le mot styliste, vous voyez, ça, pour cette femme, c'était impossible, quoi. Tellement c'était associé à de très mauvais souvenirs. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une prise... Alors, ce sont des gens qui, en parallèle, sont accompagnés par un psychologue ou un psychiatre, etc. Mais il faut vraiment la prendre du temps... Le temps où les gens reprennent confiance, reprennent pied, reprennent conscience de leurs valeurs, reprennent conscience aussi que ce qui leur arrive n'est pas que de leur fait, parce que les gens culpabilisent beaucoup, se sentent incapables, se sentent ceci, ça. Or, c'est pas de ça dont il s'agit, quoi. Vous voyez, il faut leur apprendre aussi à se donner des limites et à poser des limites, à poser un cadre. Et mon travail est là aussi, c'est-à-dire que préserver mes clients, quand ils viennent en coaching, c'est aussi leur dire, attendez, vous posez le cadre, vous posez des limites, et vous posez des limites. Vous n'êtes pas corvéable à souhait, vous n'avez pas... Il faut, ça, faut être, j'ai envie de dire, un peu d'humilité avec soi-même. On ne peut pas tout faire parce qu'on nous le demande. Il faut savoir, faut connaître aussi ces zones de limites, quoi, et savoir les imposer, mais dans le dialogue, dans quelque chose de positif. Non, voilà, là, je ne peux pas, je ne ferai pas ça. Savoir dire non, je reste dans ce cadre-là. Et pour se protéger, ne serait-ce que pour pérenniser son activité et pour pérenniser sa santé aussi.
Nous avançons vers la fin de notre programme, Monsieur Esnault. En tant que spécialiste, comment voyez-vous l'être humain ? Une simple machine, une merveille, toutes catégories comprises, qu'il soit noir, blanc, métisse, comment voyez-vous l'homme en général ?
Alors, c'est ni une mécanique, ni une merveille, c'est simplement un humain. Et alors la couleur, là, pour le coup, ça n'a pas d'incidence sur la partie humaine des humains. Il y a des humains de toutes les couleurs. Il y en a des petits, des grands, des aux yeux bleus, des aux yeux marrons. Il y a des gens aussi qui ont des difficultés de tout ordre. Il y a des gens qui ont des handicaps de tout ordre. Physique, psychologique, psychomoteur. Moi, je considère que... Mais ça n'engage que moi, je ne dis pas que la société est comme ça et qu'elle devrait l'être, mais je considère que chacun a sa place, que chacun a des épreuves dans sa vie, hein, et que toute épreuve, dès lors qu'elle est surmontée, nous enrichit, nous rend plus fort. Enfin, il y a un gars plus célèbre que moi qui l'a dit, ça nous rend plus fort. Pas plus fort pour manger les autres, mais plus fort pour, dans sa capacité à mieux comprendre, à être plus humain, pour le coup. À être plus humain dans le sens de l'humanité. Et et à aider les autres, à aider ceux qui ont moins de facilité. On n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles, on n'a pas tous les mêmes moyens intellectuels ou physiques, on n'a pas tous les mêmes talents, les mêmes prédispositions, les mêmes facilités ou facultés, on n'a pas tous les mêmes moyens financiers. Mais pourtant, on est tous des humains, et on a tous ce droit-là, on a toute cette chance d'avoir une vie, et il faut en faire quelque chose qui s'imbrique dans l'ensemble, dans de manière harmonieuse aux uns et aux autres. Et je crois, moi, personnellement, que, alors c'est un mot, que l'humilité, je ne dis pas l'humiliation, les gens acceptent d'être humiliés parfois et même souvent, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est la capacité, je crois, de se réjouir de ce que l'on a et d'avancer avec ce qui nous porte de sentiments, de capacités, de compétences, d'envie. Y aller tranquillement, avec humilité. J'y vais. Et l'humilité permet de se protéger aussi de tout ce qui est la jalousie des uns ou celle qu'on peut porter des autres. L'humilité nous permet aussi de saisir des opportunités, puis aussi de profiter des choses qui nous viennent, par exemple, de ne pas être frustré ou d'être dans ce poste-là, dans ce lieu-là, alors qu'on voudrait être ailleurs. Enfin, pour ma part, je sais ce que c'est que le manque d'humilité. Et je peux imaginer ce que c'est, en tout cas en cheminant doucement, de cheminer avec l'humilité. C'est quelque chose qu'on devrait garder.
C'est très important ce que vous venez de dire là concernant l'humilité. Et en vous écoutant, j'entends également de petites voix qui me viennent je ne sais d'où. Il semble que c'est une école où il y a des enfants qui évoluent, qui jouent dans la cour de récré, qui vont écouter leur professeur. Parmi ces enfants, il y a de futurs ingénieurs, des médecins, des astronautes, même des chefs d'État.
Et des mendiants.
Des mendiants, des SDF. Ce mot humilité, il y a quelqu'un que j'apprécie bien qui a dit pour devenir grand, il faut accepter de se mettre dans la peau d'un enfant, de vivre comme un enfant. Donc, pour vous, cette notion d'humilité a beaucoup d'importance.
Cette notion d'humilité a beaucoup d'importance. Alors, les petites voix que vous entendez, ce n'est pas des hallucinations. Il y a effectivement un collège à côté avec des petits qui courent. Il y a un monsieur aussi, qui est plus célèbre que moi, qui a dit à un moment, à propos d'un de ses copains, qui lui a dit « homme de peu de foi ». C'est-à-dire qu'il y avait un danger qui arrivait, vous connaissez la parabole, et il lui a dit « homme de peu de foi ». Je crois que l'humilité, enfin la foi et l'humilité permettent d'avancer. C'est-à-dire que si vous avez cette capacité de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, alors on appellera Dieu, on appellera le mystère de la vie, on peut appeler ça comme on veut d'ailleurs, mais cette humilité de s'en remettre à quelque chose de plus grand que vous, vous aide effectivement, je pense, à aller plus loin et à grandir en vous. Et c'est peut-être, finalement, ce à quoi on est confronté dans le travail aussi.
Donc cette personne avait bien raison de dire que l'humilité précède la gloire.
Oui. Oui. Oui.
Avançons vers la fin de notre programme, Monsieur Esno. En tant que spécialiste, vous venez de nous dire ce que vous pensez, comment vous voyez l'être humain. Parmi les différents droits d'un travailleur ou d'un employé, vous venez de nous en citer quelques-uns. Mais pourriez-vous nous les rappeler, même brièvement, avant de clore cette page ?
Oui. Alors, j'ai envie de dire que tout salarié qui justifie d'une expérience de 5 ans, une expérience professionnelle de 5 ans en tant que salarié, et qui a au moins, au minimum, un an d'ancienneté dans l'entreprise dans laquelle il est, a droit à une prise en charge a droit à un bilan de compétences qui sera pris en charge financièrement par ce qu'on appelle une OPCA ou une OPASIF. Alors, par exemple, c'est Mediafort pour les gens qui sont les métiers de la presse. C'est l'AFDAS pour les métiers artistiques. C'est le FAFTT pour les métiers qui sont régis par les sociétés d'intérim. C'est le fonds GESIF pour différents autres métiers. C'est, il y en a plein. C'est-à-dire qu'en fonction du métier dans lequel vous êtes, vous appelez le fonds GESIF en disant, oh là, moi je travaille dans quel secteur, je relève de quel organisme financier pour faire un bilan de compétences. Et derrière un bilan de compétences, vous avez fait un bilan de compétences, on estime que vous êtes passé à travers les mains de quelqu'un de compétent et de certifié qui valide votre projet, et vous avez la possibilité de faire une formation derrière. Alors, via, là aussi, prise en charge. Mmh. Et puis, il y a le droit individuel à la formation qui est autre chose, qui fait que depuis 2006, je crois, tous les ans, vous avez un capital de, je crois, d'une vingtaine d'heures que vous pouvez cumuler sur 10 ans. Donc 20 heures sur 10 ans, ça fait 200 heures, pour faire le choix d'une formation que vous souhaitez vous faire. Alors, soit vous le faites par petits modules, par petits tronçons de 10 heures, vous faites de l'anglais, la fois d'après, vous faites du macramé ou des cours de cuisine si vous votre idée. Mais vous avez ce capital-là, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez.
Et cette formation, qui va la prendre en charge? Qui va la payer?
Elle est payée par le mixte des prélèvements qui sont faits sur vos salaires et par les cotisations sociales. C'est-à-dire que alors l'employeur dit « je vous ai payé une formation », ce n'est pas l'employeur qui vous paie la formation, c'est le droit individuel de formation. Il faut effectivement demander à son employeur l'autorisation de s'absenter 10 heures, 20 heures ou 30 heures, et puis trouver un organisme qui vous dispense cette formation. Mais faut aller vers les ressources humaines ou la partie comptable de l'entreprise, vers son employeur. Mais de toute façon, il arrive aussi, hélas, que des gens disent « Ah mais oui, mais on a utilisé votre DIF pour la formation en informatique que vous avez fait l'année dernière. » Le gars, il n'avait jamais demandé à faire une formation en informatique, on l'a pris dans son capital. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des petites choses qu'il faut savoir que...
Monsieur Esnault, après votre si généreuse intervention d'une éloquence, je dirais hors pair, si vous me permettez l'expression, beaucoup d'auditeurs de la France, de l'étranger, vont sans doute vouloir vous contacter. Et comment pourront-ils le faire? Avez-vous un site personnel internet?
Alors, j'ai un site qui s'appelle Cyclope, Cyclope-R-H. Il figure sur ma carte de visite que je vous ai donnée. Je suis aussi sur LinkedIn, qui est un réseau social, L-I-N-K-E-D-I-N. Et puis j'ai un numéro de téléphone où on peut me joindre pour des informations, qui est le 06 le 21 le 66 le 31 38. Et j'ai aussi une adresse internet, Philippe, underscore, là, c'est le tiré du 8, S-N-O-E-S-N-A-U-L-T, @voila.fr. Et puis on passera par votre radio, et puis vous renverrez là. Mais de toute façon, je suis tout à fait disposé à répondre à toutes les questions.
Vous n'êtes pas sur Facebook par hasard?
Je me suis mis sur Facebook. Je suis un foutu de retrouver l'adresse, le machin pour y retourner. Donc,
d'accord. Je vous dis ça parce que nous avons beaucoup d'amis, environ 4500 sur Facebook, et ils ont la possibilité d'écouter nos émissions directement sur notre profil sans passer par la radio. Donc c'est l'une des facilités que nous offrons à nos auditeurs, ceux qui sont sur LinkedIn comme vous pouvez le dire, sur Viadeo, sur Twitter, voilà, on leur envoie le lien et puis rapidement ils écoutent sans se rendre sur le site de la radio. Donc tous ces auditeurs, ils viennent de prendre note, et je ne manquerai pas de leur rappeler votre adresse à la fin de l'émission pour qu'ils puissent, en cas besoin, vous contacter pour avoir plus d'informations sur leurs droits et leurs devoirs aussi.
Et s'ils cherchent un coach tout à fait disposé à les accompagner dans leur développement et leur donner quelques idées et quelques conseils, ce sera volontiers.
Et pour conclure, monsieur Esnault, auriez-vous une dernière chose à ajouter?
Mais je crois que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, alors que ce soit la maladie, que ce soit la rupture, une perte sentimentale, que ce soit une perte de travail, que ce soit une difficulté de santé, effectivement, il est important de savoir que ces moments de rupture, ces moments de changement, sont aussi un moment, peut-être, pour attraper, d'abord pour mieux se connaître soi, aller un petit peu dans d'autres ressources. Ça peut être un moment d'un changement qui peut être très profitable. Il ne faut pas forcément voir les choses d'une façon négative et souffrir de ce que l'on perd. On souffre de ce que l'on perd. On souffre de la douleur, on souffre de la peine. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. Et j'y crois, enfin, pour y avoir été confronté dans ma vie personnelle, j'ai perdu des emplois, j'ai eu des pertes sentimentales, j'ai eu des problèmes. Voilà, on avance et on trouve des petites saveurs différentes à chaque fois, beaucoup plus subtiles que celles qu'on pouvait avoir avant. Et je pense aussi que lorsque l'on veut quelque chose, que l'on souhaite quelque chose, et qu'on parvient à l'incarner, ce désir-là, les choses vont se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi j'avais besoin, je vous l'ai dit l'autre jour, de rencontrer quelqu'un pour exprimer mon... J'avais ce souci d'exprimer ce que je fais dans mon métier, dans la façon singulière dont j'approche mon métier. Je me disais, tiens, il faudrait un article, une presse, une radio. Et vous êtes arrivé un beau jour comme ça, je ne vous connaissais pas, je n'ai rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses arrivent comme ça. Il faut être capable et en mesure de les accueillir dans son esprit et hop, d'y aller, de suivre cette invitation-là, parce que cela existe. Vraiment, je le crois.
J'apprécie votre sincérité et je résume votre conclusion en cette parole qu'a dit un grand homme que j'apprécie, il y en a beaucoup que j'apprécie, qui a dit « Toute chose peut concourir à notre bien ». Alors, j'ajoute pas tout, mais toutes choses peuvent concourir à notre bien.
Moi, j'ai ma dentiste qui disait « À toute chose, malheur est bon
». Monsieur Esno, la radio chrétienne Ebenezer International vous remercie et vous souhaite une bonne continuation.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Et avant de tourner la page, je vous propose ce morceau de l'artiste Steve Julio, « I thought about you ». Bonne écoute.
I took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream. Moon shining down on some little town with each beam. Same old dream, and every stop that we made, oh, I thought about you. And when I pulled down the shade, I really felt blue. I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you. Shadowy lane,
I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town. With each beam you got the same old dream, and every stop that we made, oh, I thought about you. And when I pulled down the shade, I really felt blue. Ooh, I peeked through the crack and looked at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you.
Travail en détail.
Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International. Your station.
Mesdames et messieurs, ce premier numéro de Travail en détail. C'était un agréable plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'écoute de Monsieur Philippe Esnault, notre invité. Je le remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans ce programme. Et à ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient le contacter pour en savoir plus, soyez libre de visiter son site internet www.cyclope-r-h.net. Je répète, www.cyclope-r-h.net. Je remercie également tous ces artistes qui ont apporté leur contribution à ce programme, et plus particulièrement l'artiste italien Renato Gambulli, que nous aurons le plaisir de vous présenter dans la prochaine et première édition de Art et Culture, sans oublier les artistes Piero Batri, Michel Schaeffer, ainsi que le groupe Vine Song de l'Angleterre, à qui nous devons notre générique. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus merci et au revoir. Vous venez d'écouter Travail en détail, une nouvelle émission socioculturelle sur votre radio, la RCEI, The Digital Gospel Channel, your station.
È tanto tempo che non ci vediamo più, ma resti sempre nei pensieri miei. Li chiamano ricordi, però non hanno età. Essere amici è per l'eternità. Un vero amico quando ti sorride, non hai più dubbi, sai che c'è. Non tradisce mai.
sia la vita che vivrai. È tanto tempo che non ci sentiamo più, ma il tempo non cancella niente mai. È bello che tra noi c'è una strana magia, anche se ognuno ha preso un'altra via. Amico, noi ci rivedremo ancora, magari di sorpresa come allora. La lontananza è solo un'apparenza, perché non c'è distanza. Che non parlare, ma dice sempre dai che ce la fai. Sarò per sempre tuo sincero amico, qualunque sia la vita che vivrai. Qualunque sia la vita che vivrai.